On va lire au premier chapitre d'Habacuc. Oracle révélé à Habacuc le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel ? J'ai crié et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice ? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi ? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. » Et il parle ici d'un peuple qu'il suscite, les Chaldéens qui viennent, qui marchent, qui pillent toutes choses. Un peu plus loin, dans le même chapitre, verset 13, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Pourquoi regarderais-tu les perfides et te dirais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Et puis, la suite, elle est très éloquente et on y revient dans quelques instants. Nous venons de lire dans ces textes le questionnement du prophète et inspiré par le Saint-Esprit. Ce questionnement nous est présenté ce matin. Pourquoi ? On pourrait dire « Pourquoi, Seigneur Dieu, restes-tu silencieux ? Pourquoi ?» Vous savez, vous qui marchez avec Dieu, vous qui êtes attaché au Seigneur, et je l'espère, qui êtes fidèle à Dieu, qui combattez par la foi, vous avez certainement remarqué qu'il y a des moments où ce que Dieu fait semble ne pas avoir de sens. Ça ne vous arrive pas ? En réalité, on ne comprend pas du tout comment Dieu agit. Et il y a des périodes en particulier où on se dit, mais ça n'a pas de sens, Seigneur, je ne comprends pas. Bien sûr, notre éducation chrétienne et notre attachement au Seigneur veut que ça se limite à un questionnement et que loin de nous la pensée de juger les actions de Dieu. Nous vivons sur cette belle planète, la planète Terre. Comme disait un frère canadien, tu es le seul sauveur sur la planète Terre. Hein? Et c'est vrai que cette planète Terre est une planète extraordinaire. Elle est belle, notre planète. Pourtant, quelquefois, elle nous semble tellement poussiéreuse. Ce n'est pas aussi évident que cela. La situation et les choses nous semblent tellement compliquées. L'agitation devient de plus en plus grande autour de nous. On a une montée du terrorisme. Il y a de plus en plus de corruption, de violence, d'incertitude, beaucoup, beaucoup d'injustice, des tensions sans précédent, des guerres qui jettent des ombres sur toutes les nations, sur cette pauvre humanité. Et face à tout ce que l'on considère, on peut dire la terre est belle, mais pourtant d'y vivre, c'est compliqué. Alors, est-il étonnant que des gens sérieux se posent des questions, des questionnements comme « Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi y a-t-il tant d'oppression ? Pourquoi toutes ces injustices, elles sont d'une manière générale touchant les nations, les peuples, mais elles nous touchent aussi de près. Pourquoi les méchants prospèrent-ils et semblent avoir un coup d'avance, un peu de supériorité par rapport à ceux qui sont fidèles et attachés à ta parole ? Pourquoi le juste souffre-t-il, Seigneur ? Pourquoi ne fais-tu rien ? On a l'impression, quelquefois. Pourquoi ne nettoies-tu pas ce gâchis ? Parce qu'on a l'impression que c'est vraiment un gâchis. Que fais-tu et où es-tu, Seigneur, quand les nôtres tombent malades et meurent ? Quand certains ados font une overdose ? Quand il y a telle situation compliquée qui touche tel foyer, telle famille. Seigneur, pourquoi cette misère? Pourquoi, en recevant les nouvelles de nos frères dans certains pays, sont-ils encore persécutés? Pourquoi, Seigneur? Soit, Seigneur, tu es tout puissant, mais tu n'es pas aimant. Soit alors tu nous aimes beaucoup, mais tu n'es pas tout puissant. Soit alors tu es tout puissant et aimant, mais alors tu es indifférent. Parce que ça ne devrait pas être comme ça. Soit il y a peut-être une autre solution. Soit tu es Dieu et il n'y a pas de doute. J'aimerais lire avec vous dans Romains au chapitre 9. Et tu sais, toi seul, ce que tu fais. Romains 9, 14. Que dirons-nous donc ? Y a-t-il en Dieu de l'injustice ? Loin de là. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié sur toute la terre. » Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Il me dira pourquoi blâme-t-il encore ? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté ? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé : pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur ou un vase d'un usage vil ? Vous continuez la lecture, vous pourrez le faire à la maison. Mais le texte nous dit que nous n'avons pas à essayer de comprendre. Les voies du Seigneur ne sont pas nos voies, ses pensées ne sont pas nos pensées, et sa miséricorde, sa grâce, il les réserve comme il veut, à qui il veut, il fait ce qu'il veut, mais quand Dieu fait, il sait ce qu'il fait. Contrairement à nous qui ne comprenons pas ce qu'il fait. Nous avons tellement de pourquoi, de questionnements, que nous sommes même gênés quelquefois de poser ces questions. On pense que c'est mal de questionner le Seigneur, parce que c'est un peu dans notre culture, c'est presque un péché de dire pourquoi. Et moi j'ai connu ces moments où je n'osais pas poser une question à Dieu, de dire « Pourquoi agis-tu de cette manière-là? Pourquoi fais-tu cela? Pourquoi permets-tu que le juste soit malade et que celui qui te méprise ne le soit pas? Pourquoi n'ose pas poser la question ?» Et on a connu ces périodes où on pensait presque que poser ce genre de questions, c'était presque un blasphème, parce que l'argile, elle ne dit pas au potier pourquoi elle se laisse façonner par ses mains habiles, et le potier sait ce qu'il fait, et Dieu dit, vous êtes l'argile entre les mains du potier. On se souvient de ces paroles que le Seigneur adresse au prophète Jérémie dans le chapitre 18, d'aller à la maison du potier et d'observer. Mais il est arrivé un moment où justement l'argile entre les mains du potier, alors qu'il était en train de monter un vase, ce vase n'a pas réussi, alors il a tout cassé, il a tout recommencé. Et le Seigneur dit, voilà comment Dieu agit, il est capable, lorsqu'il voit qu'il y a une faille, que ça ne va pas, de tout refondre, de tout recommencer. Il est Dieu et il veut que le résultat soit bon. Et moi je crois que Dieu veut que le résultat de nos vies soit bon, à lui soit toute la gloire. On nous a enseigné que Dieu ne nous imposera jamais quelque chose qui va au-delà de nos forces. On a tous en mémoire ce texte, qu'il ne permettra pas que nous ne soyons éprouvés au-delà de nos forces. Et donc, tais-toi, accepte, ne pose pas de questions, laisse faire. Je crois que Dieu serait un Dieu étrange s'il n'était pas à même d'entendre nos pourquoi, et nous serions assez étonnants de ne jamais nous poser des questions, comme si nous avions des réponses à tout ce qui arrive. Je crois qu'il faut relativiser, comprendre que Dieu n'est pas gêné quand on lui pose des questions. Certes, il répond en son temps, comme il veut, à nous de comprendre la réponse que Dieu nous donne, mais nous avons des pourquoi. Et nous en aurons encore, parce que Dieu est infini et nous sommes limités, et que nous n'avons pas de réponse à tout ce que Dieu fait, et que la seule chose qui nous reste dans ces moments compliqués, c'est de nous abandonner entre les mains du Seigneur et de lui dire, Seigneur, je veux apprendre à te faire confiance et je te prie que dans ta grâce tu me soutiennes pour pouvoir aller de l'avant, même si je ne comprends pas tout ce que tu es en train de faire. Je veux continuer à confesser que tu es le grand Dieu tout-puissant. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bien avant nous, bien avant que nous nous posions des questions sur toutes les circonstances qui nous concernent de près, qui concernent l'Église ou qui concernent le monde, bien avant que nous posions ce genre de questions et que nous avancions nos pourquoi, nos comment, eh bien, autrefois déjà du temps d'Habacuc, eh bien, Habacuc, lui, et en plus sous l'inspiration du Saint-Esprit, dit pourquoi. Et si le Seigneur dit pourquoi, c'est parce que nous avons le droit de poser des questions, et d'ailleurs, nous aurions tort de ne pas poser les bonnes questions, parce que Dieu est la réponse. Nous avons souvent dit que Dieu est la réponse. Et lorsque nous avons prêché l'Évangile, nous avons annoncé que Jésus est la réponse à toutes nos questions. Nous avons pris même ces thèmes dans des campagnes d'évangélisation. Et aujourd'hui, nous n'oserions pas poser la question au Seigneur, pourquoi, lorsque je regarde ce texte, je vois le prophète qui, regardant autour de lui la violence et la méchanceté, crie à Dieu. Il crie de tout son cœur. Jusqu'à quand, ô Éternel ?
j'ai crié, et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi, la loi n'a point de vie, la justice n'a point de force, car le méchant triomphe du juste et l'on rend des jugements iniques. Il est étonné. Inspiré par le Saint-Esprit, il nous place face à quelque chose que nous pouvons aujourd'hui comprendre, parce que s'il y a une forme de retenue, nous posons ce genre de questions. Elles sont là dans notre cœur. Pourquoi, alors que j'ai crié, bien tu n'as pas écouté et tu n'écoutes pas? Il y a ces situations, et je crie à toi, Seigneur, depuis si longtemps, et pourtant, il n'y a toujours pas de réponse. Et j'ai crié à la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi la loi n'a pas de vie, dans le sens qu'elle ne prend pas corps? On méprise ce que toi tu dis dans ta parole, on n'applique pas l'écriture, on n'est pas attaché à ce que tu dis. Chacun fait ce qu'il veut, et nous sommes dans ce contexte-là, la justice n'a point de force, et nous sommes face à l'injustice. L'injustice, ça fait souffrir. Quand on voit une situation injuste, ça fait souffrir. On n'est pas d'accord avec cela, c'est pas normal. Il faut que le jugement soit juste. Et nous sommes dans un monde où on a l'impression que le mal triomphe du bien. Et si dans le monde, c'est quelque chose qui peut paraître normal, au sein du peuple de Dieu, ça devient une anomalie. Pourquoi ne dis-tu rien, Seigneur? Pourquoi? Alors, les pourquoi sont dans notre cœur, mais le livre du prophète Habacuc nous enseigne quelque chose de magnifique. À la fois, nous enseigne la fidélité de Dieu, mais nous enseigne aussi à quoi doit ressembler une vie fidèle, attachée au Seigneur, lorsque la catastrophe est là, lorsque les circonstances sont contraires, lorsque les vents sont contraires, lorsque l'épreuve nous assaille. Voilà à quoi sert le livre d'Habacuc, en quelque sorte. Dieu est fidèle. Et même si tu n'entends pas, même si tu ne le vois pas, toi, reste fidèle à ce Dieu. Caractéristique du livre, vous le comprenez, c'est une caractéristique conversationnelle. Le prophète parle avec Dieu. Dieu et Habacuc ont une conversation honnête. Elle est souvent une conversation déchirante sur la vie, sur tous les événements troublants. La connaissance de Dieu qu'avait Habacuc ne correspondait pas à son expérience. Tout ce que je sais de toi ne colle pas avec ce que je vis. Il y a un décalage entre ce que je vis et ce que je sais de toi, Seigneur. Je ne comprends pas tout, Seigneur. Je ne comprends pas tout. Tout ce que tu fais ne correspond pas à ce qu'on m'a enseigné. Mais surtout, ce que l'on m'a enseigné me montre tout ce que tu ne fais pas. Je ne sais pas si je suis assez clair. Et quelquefois, on est comme cela. Et ça contraste avec la circonstance dans laquelle on est. Pourquoi ? Parce que quelle est la théologie aujourd'hui ? On ne va pas parler des temps d'autrefois, on va parler d'aujourd'hui. Mais la théologie d'aujourd'hui, c'est que Dieu donne et Dieu doit vous donner ce que vous demandez. Dans cet évangile de prospérité, contrefaite d'ailleurs, nous attendons que Dieu réponde à chaque
prière par l'affirmative. Nous attendons que Dieu soit comme un distributeur automatique. On introduit une petite prière et on récolte le résultat comme si on mettait une pièce dans le distributeur pour avoir une canette de coca. Ça, c'est la théologie qu'on nous enseigne aujourd'hui. Et mes frères et sœurs, en lisant la parole de Dieu, pas seulement le livre d'Habacuc, Dieu nous dit, parfois, il faut souffrir. Il y a des moments dans la vie où vous devez et où vous devrez traverser le feu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole du Seigneur. Vous pouvez quelquefois être malade et crier à Dieu, et le Seigneur vous guérit. Et vous pouvez quelquefois être malade et crier à Dieu, et Dieu ne vous guérit pas. Parce que Dieu veut simplement que vous traversiez l'épreuve par vous-même, pour que vous alliez chercher, vous, les réponses, car il a des choses à dire. Ce n'est pas gratuitement qu'il permet des situations dans nos vies. Et nous le comprendrons un jour lorsque nous serons dans la gloire. Mais Dieu veut que nous lui faisions confiance et que nous ayons cette disposition de cœur qui nous permet d'exercer la foi. Premièrement, oui, nous devons croire dans la puissance de Dieu, dans la délivrance de Dieu, dans les miracles, dans les prodiges. Nous devons y croire de tout notre cœur. Mais il n'y a pas que cet aspect-là de la vie chrétienne, car certains en profitent, en abusent, et essayent d'attirer de cette manière-là les personnes qui ne sont fragilisées, et on est tous fragilisés à un moment ou à un autre. Il y a un autre aspect de la vie chrétienne qui devrait nous amener à crier au Seigneur et à dire, Seigneur, je sais que tu peux me guérir, mais quand bien même tu ne me guérirais pas, je continuerai à t'aimer et à te servir, car je ne suis pas attaché aux circonstances et aux choses que tu me donnes, je suis attaché à toi. Ah oui, je crois dans les promesses de Dieu, mais le Seigneur n'a pas créé une race pour les extraire du monde. Le monde dans lequel nous sommes, c'est toujours notre monde, même si nous ne sommes pas du monde, l'esprit du monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne devons pas être étonnés lorsqu'il y a un virus, que le virus puisse toucher un chrétien. Vous savez, lorsqu'il y a eu la Covid, ou le Covid comme vous voulez dernièrement, il n'y a pas bien longtemps, eh bien il y a eu des nouvelles comme quoi telle assemblée a été touchée et on nous a envoyé une nouvelle, tel serviteur de Dieu est décédé du Covid. Et j'ai reçu des coups de fil de personnes qui semblaient très affermies, très convaincues. Frère, c'est quand même pas normal qu'un serviteur de Dieu meure du Covid. C'est pas normal qu'il y ait des Covid dans les églises. Un petit peu comme si on était là, je ne sais pas où, mais mes frères et sœurs, la réalité, c'est que le Covid a touché des personnes qui peut-être ne s'attendaient pas à être touchées. Pour certains, eh bien, on a été touchés, on a résisté par la grâce de Dieu, et Dieu nous a permis de surmonter cette épreuve. Nous l'avons traversée par nous-mêmes, nous avons compris ce que cela pouvait être, nous avons saisi certaines vérités sur nous-mêmes, nous en avons saisi aussi sur Dieu. Cela nous permet de grandir dans la foi. Ce qui compte, c'est de pouvoir nous attacher au Seigneur dans un même couple que je connais, mais qui est le Seigneur. Un a été guéri, l'autre est parti auprès du Seigneur. Mais je crois qu'il faut que nous apprenions à regarder la réalité en face. Je crois que quand on traverse l'épreuve par nous-mêmes, en sachant que le Seigneur est à nos côtés, bien entendu, on en ressort fortifié. Mon frère, ma sœur, ne baisse pas les bras parce que les choses ne vont pas, parce que tu ne vois pas les choses changer autour de toi, parce que tu pries pour ton mari, pour ta femme, pour tes enfants, pour tes parents, pour cette situation, pour ce problème, pour... et que ça ne change rien, que tu en arrives à penser même, ça ne sert à rien de prier. Ne le dis jamais, parce que ce serait contredire le Seigneur qui dit que la prière, ça sert à tout. C'est ce qui nous permet d'avancer. Et même si on ne le voit pas, mais lorsqu'on traverse l'épreuve où le Seigneur nous relève, ou alors il nous fortifie, et pour que nous puissions aussi fortifier les autres, nous avons tous part à l'affliction, nous dit la parole de Dieu. Mais de la même manière, nous avons tous part à la consolation, pour que par la consolation dont nous sommes l'objet, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction, qui veut dire tout simplement que nous avons tous part à l'épreuve, mais Dieu nous en relève, et quand il nous en relève, c'est pour pouvoir consoler les autres, c'est pour pouvoir être en bénédiction. C'est vrai que quand le Seigneur prend les choses en main, il nous rappelle, il te faudra traverser des situations difficiles. Et mes frères et sœurs, ça, on a tendance à l'oublier. Et d'autres se chargent de nous culpabiliser quand on traverse l'épreuve. On a, ah, mais t'as vu, lui, il fait confiance à Dieu, il dit qu'il est fidèle à Dieu, mais s'il était fidèle à Dieu, ça ne lui arriverait jamais une chose pareille. Ils ont oublié que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Il y a des moments où Dieu dit, c'est le moment où je vais te tailler. Et nous, on n'aime pas. Dans la Bible, c'est marqué émonder. Quand c'est le moment où la vigne commence à donner des feuilles, il faut émonder. C'est-à-dire qu'il faut aller couper des tas de feuilles qui seraient inutiles et qui empêcherait le soleil de toucher la plante et de venir aussi caresser la grappe en formation pour l'amener à se développer, à donner vraiment ce bon vin. Je crois qu'il est important aujourd'hui de réaliser que Dieu a des périodes aussi avec chacun d'entre nous. Un arbre qui a été élagué est moche. Moi, je me souviens, j'avais deux arbres là, ils étaient sur Montpellier, et j'avais pris des renseignements, mais chaque année, je n'attendais pas que toutes les feuilles soient tombées, parce que c'est très fatigant de ramasser ces feuilles sans arrêt, et j'élaguai l'arbre. J'avais 3-4 branches, mais c'était comme des moignons. Hein. Il y avait plus rien, juste une petite branche qui poussait d'un côté ou d'un autre, que je gardais pour essayer de donner une forme à l'arbre. Et quand les gens disaient, ah, ben, tu l'as pas raté, hein. Oui, mais là, je pouvais répondre, eh bien, tu reviendras au printemps et tu verras le résultat. Effectivement, ça poussait à une vitesse lorsque la sève remontait, et ça donnait des arbres qui donnaient à leur tour de l'ombre. C'est un peu comme cela, quand le Seigneur nous élague, ça semble moche, et on peut entendre des personnes nous dire, oh là 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 là, tu ramasses toi, hein. Quand le Seigneur aura fini son processus, tu verras. Tu viendras goûter le fruit, parce que Dieu ne fait pas les choses pour les faire, pour nous ennuyer, mais il fait les choses pour nous aider à croître, à grandir. Alléluia. Attendez, attendez que Dieu ait fini son travail. et vous verrez le résultat. Nous sommes un peu dans une période où, après un certain élagage, nous attendons. C'est un petit peu comme le prophète Habacuc qui attend dans le chapitre 2. Et il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Alléluia. Une belle, belle prophétie, hein? La promesse, elle tarde, mais attends-la. Parce que quand on n'a plus d'arguments, quand on ne sait plus, quand traversant la difficulté, qu'on n'ose pas le dire, mais qu'en nous il y a un pourquoi qui gronde à l'intérieur, qui a envie de sortir, quand on ne sait plus trop comment s'y prendre, comment faire, eh bien il faut faire confiance, non pas à ce que nous voyons, mais en ce que Dieu dit. Amen. Il faut faire confiance dans l'amour de notre Seigneur. De pouvoir d'un coup réaliser, mais Seigneur, tu m'aimes. Et si tu m'aimes, alors tu ne veux pas mon malheur. Tu ne veux pas que ma vie reste inutile. On se pose tous des questions. Et on a raison de se poser des questions. Il faut se remettre en question à certains moments. Il faut se placer devant le Seigneur à certains moments. Il faut permettre à Dieu de nous conduire sur le chemin de la vérité. Montre-moi la voie, Seigneur. Montre-moi la voie. Afin que j'y marche et que j'accomplisse ainsi ton dessein. Alléluia. J'espère que ces réflexions, ce message d'Habacuc, ce message a pour vocation de transformer nos doutes en dévotion, notre confusion doit être changée en confiance. Mon inquiétude, je veux la laisser, avant de prendre même la Sainte Cène, je veux la laisser au pied de la croix. Je veux qu'elle se transforme en adoration. Je veux abandonner mes peurs, mes craintes, et dans ce moment, vraiment recevoir par la foi cette confiance. Je veux que ma colère ne soit laissée là, au pied de la croix. Laisse la colère, abandonne. La fureur, nous dit l'Écriture. Dieu cherche ce matin des adorateurs. Et l'adorateur, c'est celui qui confesse la victoire du Seigneur. Vous savez, quelquefois, je me suis trouvé dans des situations où j'ai eu envie de dire, mais Seigneur, Seigneur, si seulement tu pouvais faire ce petit miracle-là, eh bien, au moins, ça leur fermerait le bec. Et il comprendrait, si seulement. Et Dieu, non, il n'a pas fait. Comme quoi, les motivations du Seigneur et les miennes ne sont pas toujours les mêmes. Des gens qui disaient, envoie maintenant la foudre du ciel et règle leur cas. Hein? On serait content que le Seigneur règle les situations comme ça, mais après il faut penser à l'après, il faut pouvoir porter la culpabilité après. Hein. Mais Dieu n'agit pas de cette manière-là. Dieu a son calendrier, Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Et on peut questionner Dieu, on a le droit, Dieu n'est pas gêné par nos questions, mais il faut que l'on accepte aussi ses réponses. Amen. Et un enfant, vous avez eu des enfants, vous vous avez été enfant. Mais vous remarquerez qu'un enfant, souvent, pas toujours parce qu'ils sont bien indiqués, mais un enfant, souvent, il veut un bonbon juste avant de manger. Bonbon. Et là, c'est très embêtant parce que on sait qu'en disant non, ça ne va pas lui faire plaisir à l'enfant. Mais vous avez peut-être fait cette expérience où vous dites à l'enfant, non, pas de bonbon avant manger, parce que le bonbon va te couper l'appétit. Et maman, elle a beaucoup travaillé pour te préparer des bons légumes, des bonnes choses, pour ta santé. Et l'enfant va vous répondre, oh maman, merci pour tes explications. C'est vraiment, j'avais pas vu ça sous cet angle. Mais maintenant tu me le dis, je vais attendre patiemment et le bonbon tu me le donneras que lorsque toi tu auras décidé de me le donner. C'est comme ça que ça se passe. Souvent. Bon, ils savent qu'il ne faut pas insister dans certains cas, mais souvent c'est « Mais non, le bonbon, le bonbon !» Il ne veut pas des légumes, moi, il ne veut pas des légumes. Il veut des bonbons. Les bonbons, c'est tellement bon. Hein. Mais qu'est-ce que ça m'apprend? Ça m'apprend que la maman, elle fait tout pour que son enfant soit en bonne santé, mais l'enfant, lui, il veut des bonbons. Parce qu'il ne comprend pas que ce n'est pas bon pour lui. Non seulement ça lui coupe l'appétit, mais en plus, vous remarquerez, c'était hier, je crois, aux informations, les dentistes font vraiment maintenant un petit peu tirent la sonnette d'alarme parce que les enfants mangent tellement de sucreries que les dents des enfants sont agacées. Et oui, c'est comme cela, et ça ne va pas. C'est pas bon pour la santé, ça ne se voit pas quand on est un petit enfant, mais en grandissant, ça se voit, parce que ceux qui mangent des bonbons maintenant ne sont pas les enfants. Ce sont les petits vieux. Ils aiment les petites sucreries, hein. Ils aiment. Vous faites rien tout seul, parce que je pense à certaines situations où il y en a qui aiment bien donner à manger à leur diabète. Hein. Enfin, la leçon que le Seigneur veut nous donner, c'est qu'on est des enfants. Et dans le domaine de la vie chrétienne, on est vraiment des enfants. Et on demande toujours au Seigneur des choses qui ont un goût sucré. Alors qu'il faut que l'on s'habitue aussi à manger d'autres aliments. Il faut habituer le palais des enfants, on le dit. Vous avez raison, donnez-leur de tout. Mais moi, j'ai connu des enfants dans certaines maisons où je suis allé. Nous, les légumes, c'est non. Ou les saucisses, c'est non. Et ils ne mangent que ça, vos enfants. On dit oui parce qu'ils ne veulent pas le reste. Et vous les laissez faire. Et oui, les pauvres. Oui, mais enfin, les pauvres. Enfin, moi, je ne vais pas redonner. Quand je suis invité quelque part, ce n'est pas mon problème. J'essaye d'expliquer, mais ça ne va pas plus loin. Après, je ne peux pas m'immiscer dans les affaires de chacun. Mais je crois qu'il faut que l'on réalise que le Seigneur, lui, sait ce qu'il fait. Et quand il parle, il sait ce qu'il fait. Et quelquefois, il nous fait attendre le temps qu'il faut que nous apprenions quelque chose sur nous, que nous apprenions quelque chose sur lui, et quand nous l'avons appris, alors il change les circonstances. Quelquefois il faut du temps, et les choses ne se font pas d'une manière instantanée. On aime le tout instantané maintenant, hein. Moi je me souviens, j'étais jeune, j'aimais bien faire la polenta. Et la polenta, il fallait 3 quarts d'heure pour la faire avant. Il fallait toujours remuer, toujours, toujours, toujours. Elle était bonne. Maintenant, vous avez la polenta en 3 minutes. Vous la mettez dans l'eau, vous tournez 2 fois, vous la sortez, et la polenta, elle est bonne. Alors vous dites, mais pourquoi elle est tournée pendant 3 quarts d'heure? Et moi-même, je dis, mais quel idiot! Tu passais trois quarts d'heure à tourner ta polenta alors que tu pouvais l'avoir en trois minutes. Mais c'est pas forcément meilleur. C'est certainement pas meilleur. Hein? C'est comme cela. C'est un fils qui est revenu de la capitale vers son père, un chef indien, et qui lui a dit, tu sais, quand tu fais ton voyage chaque année et qu'il te faut être roi moi pour atteindre l'endroit où tu dois aller, parce que il se déplaçait ces Indiens de cette manière-là. Mon fils a dit, écoute, tu as la possibilité de prendre maintenant des moyens de locomotion qui vont vite, tu peux même prendre l'avion, mais tu fais ceci et cela, et au lieu de faire en 3 mois, eh bien tu le fais en 15 jours. Et le reste du temps, je fais quoi, il dit le père. Pour lui, c'est pas le problème, ce n'était pas les 3 mois, c'est qu'il fallait qu'il fasse les choses en son temps. Et pour nous, nous devons vraiment faire confiance au Seigneur. Et quand il y a un problème dans notre vie, il faut comprendre que Dieu est aux commandes. Alors, c'est soit il a des leçons à nous apprendre, mais qui verront le changement une fois qu'on les aura apprises, soit il y a quelque chose que Dieu veut nous enseigner de plus profond. C'est l'histoire de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 12, verset 7, dit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Alléluia. » L'apôtre Paul explique ici qu'il a une écharde dans la chair, et que cette écharde, elle est voulue par Dieu, pour qu'il ne s'enorgueillisse pas. Et il a demandé au Seigneur, il a dit, pourquoi ? Enlève-moi ça. Et le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Ça reste comme ça, ça ne bougera pas, accepte-le. Il a fallu que Paul prenne la victoire et comprenne que c'était comme ça, et pas autrement. Que ça allait être comme ça jusqu'au bout, et pas autrement. Et que c'était une garantie pour lui de ne pas tomber dans l'orgueil. Frères et sœurs, nous aurions tendance à dire, lorsqu'il y a un truc comme ça qui ne va pas, c'est le diable. Mais là, Paul dit, c'est Dieu. Pourquoi ? Parce que nous, on n'arrive pas à comprendre que Dieu peut permettre des situations difficile. Et ça peut durer longtemps. Et quand on parle de la délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, il y est quand même resté 4 siècles. Or nous, on lit ça en un chapitre, on dit, ah, c'est formidable et tout, oui, d'accord. Mais il y a des choses que nous devons admettre. Nous devons nous armer de courage, mais avoir cette confiance, parce que ce que Dieu a commencé à faire, il le continuera et l'amènera à son plein achèvement pour la gloire de son grand nom. Alléluia. Alors ça prendra du temps et on n'aime pas ça, mais il le fera. Quand Dieu a appelé Moïse, entre le moment où il l'a appelé et où cet appel s'est concrétisé, il y a eu 40 ans. Et nous, quand on lit ça, et quand je le prêche, il y a souvent quelqu'un qui vient me voir en disant, mais pour nous, ça va durer 40 ans aussi. Non, il n'y a pas ici une indication pour nous dire que l'œuvre de Dieu commencera qu'après 40 ans de désert. Non, mais ça veut dire que Dieu fait les choses en son temps, comme il veut, et quand il les fait, c'est pour sa gloire. Alors, quand je lis Habacuc, je lis le chapitre 1er et j'ai toutes sortes de pourquoi. Je lis le chapitre 2 et je le vois maintenant dans l'attente. Il attend quelque chose. Je le lis dans le chapitre 3, et dans le chapitre 3, je découvre là quelqu'un qui explique, qui révèle qui est Dieu. Et il y a quelque chose de très fort dans ce livre d'Habacuc, c'est que, par exemple, au chapitre 3, verset 3, « Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons partent de ses mains. Là réside sa force. » Alléluia. Pour ceux qui ont de la mémoire, je me souviens avoir prêché pendant le Covid, « Devant lui marche la peste, et la peste est sur ses traces. » C'est vrai que la peste, c'est-à-dire la maladie, elle est là, elle précède, lui, il vient, mais la peste vient derrière lui, pas la peste de la maladie, mais la peste du jugement. Or, nous savons que toutes les circonstances que vit le monde sont sous le contrôle de notre Seigneur et nous annonce qu'il vient. Et quand j'arrive à la fin du chapitre, je lis le verset 17, « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, l'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés au chef des chantres avec instrument à cordes. » Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire tout simplement, « Seigneur, je ne vois pas que les choses s'arrangent, ça va continuer, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, mais quand bien même les choses ne s'arrangent pas, eh bien, Seigneur, moi, je ne vis pas dans l'inquiétude, je ne vis pas dans la crainte, je ne vis pas dans la peur, je te fais confiance, je veux me réjouir en l'Éternel, quelles que soient les circonstances, et je veux confesser ton grand nom, tu es l'Éternel, et toi, le Seigneur, l'Éternel, tu es ma force, et tu rends mes pieds semblables à ceux des biches. » Comme la biche, on la voit courir avec tant de légèreté, elle gravit les hauteurs, on a l'impression que c'est tout simple. Mais vous, quand vous marchez sur le même chemin, au bout d'un moment, vous êtes essoufflé. Eh bien, la biche nous parle de cette légèreté qui nous permet par la foi de surmonter les épreuves les unes après les autres et de voir la gloire de notre roi. Alors, ce matin, je ne vais pas vous dire que tout va s'arranger demain, mais je peux vous dire que Dieu est au contrôle, et que pour nous, rien ne va nous empêcher de nous réjouir. Tu es malade, fais confiance au Seigneur. Tu es dans une situation où tu veux vraiment qu'il y ait une délivrance. Attache-toi à Dieu, à ses promesses. Fais-lui confiance. Tu voudrais que Dieu justifie ta cause. Fais confiance au Seigneur. Il le fera en son temps. Vous savez, quand on a des ennuis, on n'a pas besoin. Je vais vous dire le fond de ma pensée. On a tous un peu ce défaut, mais il y en a plus que d'autres. J'ai pas besoin, quand j'ai un problème, qu'on me raconte que votre oncle, il a eu le même problème que moi. En me donnant toutes sortes de détails, puis finalement, on a commencé à vouloir parler de quelque chose, et c'est plus nous qui parlons, quoi. C'est la personne qui vous raconte que l'oncle, l'oncle là. J'ai pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'entendre ce genre de choses. Il y a des moments où ceux qui sont dans l'abattement ont besoin simplement d'entendre ceci. Mon frère, ma soeur, j'essaye de me mettre à ta place, j'essaye de te comprendre, je ne peux pas comprendre la souffrance qui est la tienne, mais sache une chose, c'est que je suis là pour t'aider. Il y a une épaule sur laquelle tu peux t'appuyer. Je vais prier pour toi. Et tu peux compter sur moi. Si tu as besoin, fais-moi le savoir, je vais prier pour toi. On a besoin plus d'aider que de vouloir à tout prix expliquer. Et pardon pour toutes les fois où ça m'est arrivé de ne pas manifester ce genre de sagesse, mais mes frères et sœurs, dans les moments les plus compliqués de la vie, nous devons apprendre à faire confiance au Seigneur. Alors ce matin, avant de prendre la Sainte Cène, on peut dire « Seigneur, pourquoi ?» Mais Seigneur, même si je ne comprends pas, je te fais confiance. Et je repars de ce lieu avec ta victoire. Alors, on va prendre le repas du Seigneur dans la foi et on va déposer au pied du Seigneur notre problème, notre situation, notre combat, notre épreuve. Et on s'attend au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Tu es grand, Seigneur, et magnifique. Je veux dans ce moment placer toute ma confiance et ma foi en toi. Seigneur, nous ne comprenons pas tout, loin s'en faut. Et nous nous posons bien des questions auxquelles quelquefois nous croyons avoir des réponses, alors que toi-même, tu n'as pas encore donné ta réponse. Alors Seigneur, nous voulons dans la sagesse nous en remettre à toi, apprendre à être à ton écoute, apprendre à recevoir de toi les réponses comme toi, même tu nous les donnes, à les discerner, à saisir les leçons que tu veux nous adresser, afin que nous soyons petit à petit fortifiés, que nous puissions petit à petit être enracinés, et que, enracinés en toi, nous puissions puiser en toi toutes les substances de vie qui nous permettent de grandir dans la foi, dans l'amour pour toi, dans la relation avec toi, de la même manière que le prophète avait des conversations avec toi. Nous voulons vivre quelque chose d'authentique dans ce domaine. Alors ce matin, je m'attends à toi et je sais que tu es tout puissant. Tu es le Dieu du miracle. En un instant, tu peux tout changer. En un instant, tu peux guérir, tu peux relever. En une fraction de seconde, tu peux frapper d'aveuglement les puissances ennemies et ouvrir les yeux d'une multitude. En un instant, Seigneur, tu peux bouleverser la terre entière. Alors Seigneur, je n'ai pas de doute, je veux te faire confiance. Et dans ce moment, je te prie de nous ouvrir les yeux et de nous permettre de comprendre que ce que nous venons chercher auprès de toi est moins important que toi, et que la relation que nous devons avoir avec toi, que la profondeur de foi et de dévotion qui doivent être les nôtres. Seigneur, bénis-nous, enracine-nous, remplis-nous, Seigneur, ce matin. Nous te le demandons au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Seigneur.